Voyelle.
Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. En fait,
Voyelle.
Voyelle.
Ouais, voyelle.
Si, voyelle.
Mais non, consonne.
Voyelle, on t'a dit.
Oh, les deux, voyelle. Les deux, les deux.
C'est quoi, voyelle?
Voyelle,
voyelle,
une émission faite par
des meufs à moustache,
des
meufs à crête ou à bouclette.
Et aussi celles qui aiment cueillir les pâquerettes. Des meufs qui ont du poil aux pattes, celles qui bandent leur sein. Et aussi des meufs fatales, tu sais, c'est celles qui dépalent. Celles qui miment.
Celles qui gueulent.
Celles qui ont leur mot à dire. Des guerrières à talons hauts et des pirates du genre. Voyelle,
c'est une émission faite par
des meufs,
des femmes, des meufs, des gouines, des trans, des bis.
Et
toutes celles et ceux qu'on oublie. Pour tout le monde.
Tout le monde.
Professeur de baisse. Comment, vous en avez vu d'autres? À qui vous avez demandé ça? Passons à Paris, nous aimons la diversité. Il y a plusieurs façons de baiser la main. On peut embrasser le bout des doigts, le creux de la main, un seul doigt, ça fait léger et mondain, la paume de la main, en essayant de la croquer. Là-dessus, c'est pas mal, hein. En essayant de la croquer, ça fait gentil, ça fait Adam et Ève, n'est-ce pas? Là-dessus, maintenant, le dessus de la main, en essayant de monter jusqu'au coude. Ce baisement-là, eh ben, c'est un peu osé. Mais permis jusqu'au coude. Hein? Bon. Maintenant, le plus beau, eh ben, c'est une main joliment donnée. Il se fait en regardant les yeux de la femme.
1, 2, 1, 2, ouais. Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2. Il est 21h09 et c'est l'émission Voyelle qui commence un peu chaotiquement. On a un numéro de téléphone si vous voulez nous appeler. C'est quoi le numéro de téléphone?
Le 05 61 53 36 95.
Sécurité, sur le logiciel.
Et par ailleurs, vous pouvez aussi nous écrire à la boîte mail de Voyelle. C'est Femme la nuit, femme au pluriel, la nuit tout attaché, at no-du6log.org. Et vous pouvez aussi aller sur notre blog de Voyelle. C'est Voyelle FM, tout attaché, voyelle au pluriel, .wordpress.com. Et on est là donc un mercredi par mois en direct et un mercredi sur deux. Sinon, il y a voilà un mercredi direct, un mercredi rediff, un mercredi direct, un mercredi rediff. Voilà pour Voyelle et on est avec vous jusqu'à 22h30 ce soir.
Super. Et du coup, tu vas nous parler un peu de ce qui va se passer ce soir ?
Tout à fait, tout à fait. Du coup, on va commencer par un petit agenda là, pour les jours qui viennent. Ensuite, on va avoir un montage qui nous vient de Noël, donc avec un petit peu de retard parce qu'on n'a pas pu le passer à l'émission du mois de janvier. Mais voilà, il va venir cette fois-ci. Et après, on va parler d'une pièce de théâtre qui, pour enfants qui tourne actuellement sur Toulouse, donc avec un montage. Voilà, et en deuxième partie d'émission, on va aborder des questions, les thématiques psy et anti-psy, avec des montages et un peu des présentations des questions que ça nous soulève. Voilà pour ce soir.
Ok, alors moi du coup je vais vous faire un petit peu bref agenda local. Je vais commencer par l'actualité du planning familial du 31 que vous suivez ardemment depuis quelques semaines. Donc si vous n'étiez pas trop au courant, le planning familial de la Haute-Garonne est menacé de fermeture d'ici la fin du mois pour des problèmes de... essentiellement financier. Donc, je vais d'abord vous lire le communiqué de presse qui est sorti cette semaine et qui appelle du coup à un rassemblement vendredi prochain, du coup le 13 février à 16h à Jean Jaurès. Donc, je vous lis le communiqué de presse. Le planning familial de la Haute-Garonne ne doit pas fermer, mobilisons-nous. Le planning familial 31 existe depuis 1974 à Toulouse. Il est une des émergences des luttes menées pour l'accès à la contraception et à l'avortement. Défendre ces droits est une des conditions primordiales pour l'égalité femmes-hommes. Le fait que le planning familial se soit inscrit dans cette lutte, dans cette histoire des luttes, en fait un lieu emblématique à Toulouse et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons toujours besoin de lieux pour accueillir gratuitement des femmes, parler de violence, s'assurer l'accès à une IVG, choisir une contraception, poser des questions qu'on n'oserait pas poser ailleurs, accéder gratuitement à des préservatifs, déconstruire des normes sexuelles, faire un test de grossesse, parler d'un viol, parler des sexualités, parler de son couple, être accompagné pour un avortement après 12 semaines de grossesse, être écouté sans jugement. Parce que nous manquons déjà d'endroits pour tout cela. Le planning familial 31 reste un lieu ressource essentiel pour ne pas laisser des personnes dans l'isolement et sans solution. Parce que l'avortement, la contraception, la santé des femmes ne peuvent être effectifs et défendus par de simples déclarations et des mesures d'affichage. Nous avons besoin chaque jour d'outils concrets, de temps et de personnes pour défendre l'égalité femmes-hommes, lutter contre les violences, accéder à nos droits. Le planning familial 31 est un de ces outils. Et pourtant, le planning familial 31 est menacé de fermeture définitive en mars 2015. Ici comme ailleurs, les difficultés qui semblent ponctuelles révèlent un déficit structurel de moyens et de soutien. En Haute-Garonne, avec seulement 3 salariés et des bénévoles, pour un territoire de plus d'1 million d'habitantes, le planning familial 31, comme beaucoup d'autres associations, a besoin de subventions, de fonctionnement, de financement pérenne pour sortir de la survie au jour le jour. Depuis novembre 2014, l'association interpelle ses financeurs pour leur faire part de sa difficulté financière et de sa grande précarité. Sans solution ni engagement depuis lors, nous nous mobilisons aujourd'hui pour empêcher sa fermeture. L'urgence de la situation rend le soutien de ses financeurs primordial et nous amène à exiger l'organisation d'une table ronde dans les prochains jours afin de trouver les moyens nécessaires au maintien du planning familial 31. Voilà, donc ça, c'est pour l'actualité du planning avec Je rappelle, un rassemblement organisé le vendredi 13 février à 16h, métro Jean Jaurès, à Toulouse. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet du Planning Familial 31, où vous pourrez trouver une formidable pétition, un appel aux dons et des vidéos, et aussi de quoi envoyer des petites lettres aux financeurs pour plus de soutien. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreuses lors de cet événement. Alors ensuite, deuxième brève, la CREA, donc appel à la solidarité avec les inculpés des expulsions. Donc la CREA, c'est
pour la réquisition et l'autogestion.
Désolée de ce petit problème de sigle. Et donc du coup, la CREA appelle, c'est notamment un collectif qui organise beaucoup de d'hébergement des personnes sans domicile, sans papier, sans papière. Et lors d'expulsion de squats, il y a eu des interpellations, des arrestations. Et du coup, face à la répression et aux violences judiciaires, il y a des appels à rassemblement en soutien aux inculpés qui vont passer en procès. Du coup, le prochain rassemblement sera au tribunal de grande instance le 17 février et il y en aura un autre en avril prochain et aussi le 19 février. Bon, pour que ce soit un peu plus clair, peut-être, vous pouvez y aller sur le site de IATA, qui est du coup l'information anti-autoritaire sur Toulouse et ses alentours, où vous pourrez un peu plus lire tout l'historique de ce qui s'est passé autour de la CREA et des arrestations. Alors ensuite, nous avons ce week-end, le 14 février, le samedi, on aura une soirée concert plutôt appelé Nique la Saint-Valentin, au pavillon sauvage à base de prix libre, de cantine qui sera en soutien à des rencontres non mixtes autour de la condition animale. Si je dis pas
rencontres féministes, ouais.
D'énormes conneries, ouais, mais je crois que c'est à peu près ça. Et aussi, mais c'est un peu plus loin, il faudra plutôt une voiture pour aller à Bordeaux avec une soirée au bar à Guinage, voilà, qui est un bar féministe.
Ouais, un nouveau lieu.
Un nouveau lieu, ouais,
qui est à Bordeaux.
Tout à fait. Bon, voilà, on sait jamais, ça peut changer. Et puis, à la suite de tout ça, le 17 février prochain, à la chapelle, à 19h, aura lieu une réunion, encore une, mais cette fois-ci pour l'appel à l'ouverture d'un nouveau lieu féministe. Donc c'est plutôt des moments de réflexion avec des personnes intéressées par se retrouver du coup autour des questions féministes et aussi d'essayer de créer des envies autour de l'ouverture d'un lieu ou de lieux. Et je vais vous lire un peu l'appel pour que ce soit plus clair. Salut à toutes, il y a tout juste 2 semaines, une dizaine de personnes se sont réunies afin de réfléchir à un nouveau lieu féministe sur Toulouse. Ce lieu a été pensé en non-mixité meuf, trans, PD, Gwyn et travailleuse, travailleur du sexe. On a envie d'être plus nombreuses pour penser cet espace, de quoi on a envie, besoin, qu'est-ce qu'on veut y faire, comment on s'organise, blablabli, blablabla. On s'est dit que cet endroit pourrait servir à différents collectifs, que ce soit pour faire des réunions, des ateliers ou tenir des permanences. Un espace de rencontre, de partage de savoir sans les inconvénients d'un lieu associatif ou institutionnel. Bref, on a vraiment envie d'élaborer un projet collectif et la réunion se fera donc le 17 février prochain à 19h à la chapelle. C'est 36 rue Casanova, métro Compense Caffarelli. Voilà, donc faut pas hésiter à aller y faire un tour pour discuter un peu des envies qu'il y a autour de tout ça. Et ensuite, ça n'en finit plus.
Bah oui,
nous avons je vais accélérer le pas. Mais du coup, le 21 février prochain à 14h, métro Capitole, aura lieu une manifestation en soutien aux ZAD et contre le monde des bétonneurs. Là aussi, je vous invite à aller voir du côté de IATA et d'Hémosphère où vous pourrez lire plus de choses à ce sujet. Et enfin, est-ce fini ? Non, parce que il y a aussi, vous en saurez plus tout à l'heure, mais une pièce de théâtre jeune public qui s'appelle Péronie et qui sera jouée tous les jours à 11h et à 15h au théâtre du Grand Rond jusqu'à samedi inclus. Et pour savoir ce que c'est Péronie, je vous laisse patienter quelques minutes pour en découvrir plus. Voilà.
Super. Et du coup, maintenant, on va vous diffuser un montage sur, qui aurait dû être passé en janvier à la suite de Noël. Du coup, c'est un texte que Elsa Dorlin a écrit à la suite d'une expérience de fête de Noël.
Super.
Une nuit de Noël en enfer, par Elsa Dorlin. J'émerge à peine dans les effluves d'alcool et les relents de saumon fumé. J'ouvre un œil. 25 décembre 2009, 14h23. Dire que j'avais préparé mon coup est un doux euphémisme. Une détermination digne d'une perverse psychotique. Un plan machiavélique animé par un esprit vengeur qui a marché bien au-delà de mes plus folles espérances. Tout a commencé il y a environ un mois et demi, quand ma voisine s'est enthousiasmée devant les illuminations de Noël, subventionnée par l'amicale des commerçants de proximité, qui défiguraient le quartier. Quand ma boîte aux lettres fut inondée de dépliants de Noël d'hypermarché discount. Quand les trottoirs des fleuristes ont vomi des sapins morts. Quand ma mère a commencé à me parler en long, en large et en travers du menu du repas de Noël comme si sa vie en dépendait. À ce moment-là, j'ai pris la décision que cette année, ça n'allait pas se passer comme d'habitude. Moi aussi, j'ai commencé à faire ma petite liste. Enfin, jeudi 24 décembre, dans le métro parisien, comme tous les passagers, j'hésite entre l'angoisse et la joie. J'arrive, chargée de cadeaux que je dépose discrètement à l'abri des regards enfantins autour du sapin. Je suis accueillie par ma mère, dans un état second qui m'enrôle dans les derniers préparatifs. Anesthésiée par l'apéritif qui coule à flot, chacun, chacune, endosse son personnage et le rituel se met en place. Les festivités commencent, le repas gargantuesque n'en finit pas de tous nous emporter dans une déferlante de plaisirs gustatifs qui en deviennent obscènes. Comme à l'accoutumée, chaque plat est accompagné d'une petite engueulade larvée, d'un sujet qui fâche, d'une vanne sanglante. Mais que c'est bon de se retrouver en famille. 0h41, toute la famille définitivement repue, plus personne n'est attablé. Moment de magie absolue. Si tout le monde est définitivement bourré, mon grand-père est totalement murgé et titubusque aux toilettes. Ma mère, mes tantes, mes cousines, mes belles-sœurs sont dans la cuisine, débarrassent, remplissent le lave-vaisselle, préparent la bûche. Leurs compagnons s'en grillent une dehors, les ados sont vautrés devant Internet, et les gamins de chacun, chacune, courlent, hurlent, pleurent d'excitation. Évidemment, plus personne ne s'attend à voir débarquer le Père Noël, mais tout le monde fait semblant qu'il a bien eu raison de faire ses courses chez Sephora, Célio, Decathlon, Chef de Bruges et la Fnac. 3, 2, 1, 0, caméra, appareil photo, téléphone sont prêts, et là, c'est le drame. Ça commence d'abord par les adultes, parce qu'ils ont moins de cadeaux, même si cette année je les ai gâtés. Mon oncle découvre ahuri l'exemplaire du Scoom Manifesto de Valérie Solanas. Ma mère pousse un cri devant son fabuleux dildo tri-stimulator. Mes grands-parents, l'air interrogateur, s'extasient poliment devant mon magnifique space cake confectionné avec amour dans l'après-midi. Ma petite sœur pique un phare devant la copie pirate de Mutante, le documentaire de Virginie Despentes. Quant à mon frère, la joie suscitée par le volumineux cadeau joliment empaqueté fait rapidement place à une profonde déception. Un superbe robot ménager multifonction de la même marque que le rutilant aspirateur qu'il venait justement d'offrir à son épouse. Là où l'ambiance s'est carrément détériorée, c'est quand tout le monde s'est retourné vers moi, prêt à m'étriper, au moment où mes neveux et nièces ont découvert les cadeaux que Maman Noël m'avait personnellement chargé de leur apporter. Bon, ce n'est pas tant les pins de toutes les couleurs, mon identité n'est pas nationale, avec le sigle des Panthères Roses et Daptop, ou encore la jolie caisse enregistreuse et le nécessaire de maquillage que j'avais choisi pour les petits garçons qui firent scandale. que le bon pour un stage d'autodéfense féministe que j'avais glissé dans des petites pochettes surprises violettes confectionnées avec soin pour mes nièces. Avec, en supplément, pour celles âgées de plus de 12 ans, des Diva Cup Dernier Cri et un CD des Bikini Kill. Alors là, j'avoue que je me suis sentie un peu seule tout d'un coup. Mais ce moment de solitude a vite laissé la place à un moment de grâce, devant la réaction de mon neveu de 15 ans, assis en tailleur, au milieu de l'amas de paquets cadeaux déchirés et de rubans dénoués gisant sans charme, totalement indifférent à l'hystérie collective, comme à l'admiration qui m'avait envahi. Il était plongé dans la lecture du super fanzine édité par Outrance, Dictite et Teclac, pour les trans F2 et leurs amants, dont j'ai récupéré un exemplaire en avant-première. Évidemment, la soirée a tourné un peu court. Courageuse mais pas téméraire, j'ai rassemblé mes cadeaux encore immaculés, j'ai quitté les lieux dans une ambiance apocalyptique et sous une nuée d'insultes, laissant mon oncle au bord de la crise cardiaque, ma mère de la crise de nerfs, abasourdie par les sanglots d'une petite nièce oubliée dans un coin qui tenait frénétiquement dans ses bras une pupardie brune, hurlant à l'assemblée en déroute « J'en voulais une blonde !» De retour chez moi, puisant dans mes dernières réserves, et parce que je ne pouvais pas fermer les yeux tellement ça tanguait autour de moi, je me suis connectée à internet pour revendre 1. Un super coffret de chez Body Shop, 2. Le dernier roman de Patricia McDonald, 3. Une bougie parfumée. Malheureusement, ce matin, mon lot est en concurrence avec des tonnes d'autres produits du même acabit, à croire que Papa Noël n'a toujours rien compris. Finalement, c'est décidé, j'offrirai la bougie à ma voisine. That's Frosty the Snowman, he's a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how.
Et maintenant, c'est à moi de vous parler d'un spectacle jeune public que j'ai été voir au Théâtre du Grand Rond, qui est proposé par la compagnie Dis Donc. Ça s'appelle Péronille la Chevalière. Il s'agit d'une adaptation d'un livre pour enfants de Marie Dariussec. Il est joué par les comédiennes Sophie Hubi et Emmanuel Dudgen. Donc comme on le disait dans l'agenda, ce spectacle tourne encore au Théâtre du Grand Rond jusqu'à samedi. Je vous encourage vivement à aller le voir, avec les enfants ou sans d'ailleurs. Et en attendant, voici un petit montage pour vous donner envie.
Ça arrive tout de suite.
C'est quoi l'amour ?
Ah, toi t'es pas contre quoi ?
L'amour c'est quelque chose de ridicule.
Ah,
j'aime bien moi.
Tu sais c'est quoi l'amour?
En fait, c'est l'amour, c'est quand on veut venir avec une femme ou un homme pour avoir des enfants.
Da-di-da-di-da-di-da-di-dam-da-dam. Il était une fois une très belle jeune fille, forte et intelligente, elle s'appelait Péronille. Elle montait à cheval, elle avait une grande épée, elle se battait contre les méchants, c'était son métier. Da-di-da-di-da-di-da-di-dam-da-dam. 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 Elle était chevalière, elle avait une grande épée, elle parcourait le monde avec son fil à destrier. Dadi 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 dam dadam. Dadi 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 dam dadam. Dadi 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 dam dadam. Dadi 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 dam dadam.
C'est l'histoire de Péronille la chevalière. Une jeune fille qui parcourt le monde à la recherche de méchants à pourfendre, mais surtout à la recherche de l'amour. Parce qu'un jour, sa grand-mère lui a dit
« L'amour est précieux et fragile à la fois. Quand tu le trouveras, tu le sauras. »«
Non, tu le trouveras. Il le saura. »
Mais Néné, ça ressemble à quoi l'amour?
Et elle mourut. Donc Péronie part de là. Et elle cherche l'amour.
Donc c'est un peu une histoire, un parcours initiatique sur... voilà, elle entend qu'un roi offre l'amour en récompense et qu'il résoudra 3 épreuves. Donc elle part résoudre les épreuves, il y a affronter un dragon, résoudre une énigme, aller chercher quelque chose au fin fond d'un labyrinthe. Donc c'est un peu pour nous des étapes importantes pour se rencontrer soi-même et donc être disponible à l'autre.
On passe encore. Elle cherche et cherche et recherche, mais
perdu.
Quoi? Hein?
Elle
toi
sue,
qui
perdu,
hein?
Perdu.
Quoi? Ah oui,
elle sue,
mousse perdu, mousse à raser
perdu. Elle sue,
mais rien
perdu, perdu.
Pas de boutique, pas de tactique, pas de plan d'attaque jusqu'alors. Pas de soucis, pas d'ennui, mais aujourd'hui, rien.
Elle sue,
Péronie, baisse les draps. Péronie, n'y crois pas. Péronie, ne prends les pas, mais coincée, bloquée, elle perd pied, s'assied. Oui, ben. Laisse passer l'impasse, tant pis. Pourquoi? Après tout, on s'en fout. Hein, courir, toujours, seul, pour qui? Pourquoi? Pourquoi? Pour moi? Après tout, on s'en fout. Colère, Péronie, air, digère. Mal. Elle n'arrivera pas à trouver cette mousse à raser. Elle n'arrivera pas.
Mais voilà, c'est un apprentissage de soi-même pour être disponible à l'amour. Et bon, surtout, le clou du spectacle, c'est que l'amour n'est pas là où on l'attend forcément.
Parce que la chevalière finit par tomber amoureuse d'une princesse. D'un ouvrage jeunesse de Marie Darrieussecq qui s'appelle Péronie et la chevalière. Donc c'est un livre qui questionne déjà un peu le genre et qu'est-ce qui est réservé aux filles ou aux garçons. Donc on avait déjà un peu craqué sur le bouquin, ouais. Et puis du coup pour mon anniversaire, Emmanuel m'avait réécrit un peu l'histoire, elle avait scanné les images et puis elle avait réécrit l'histoire.
Oui, très belle illustration de Nelly Blumenthal.
Ouais.
Donc le texte est de Marie Darrieussecq et les illustrations de Nelly Blumenthal sur le Péronie à chevalière.
Et donc elle m'avait réécrit l'histoire, elle avait transformé en l'incroyable histoire de Sophie H. Et du coup voilà, moi j'avais été très touchée et donc dans l'adaptation d'Emmanuel, il y avait à la fin Péronie donc tombée amoureuse d'une princesse. Et voilà, ça a mûri et
ça faisait longtemps que tu voulais aussi qu'il y avait cette envie chez toi de faire un spectacle qui parlait d'amour en général et d'homosexualité en particulier, et du coup
je me suis dit que c'était le moment en fait d'en parler aux enfants, parce que c'était même avant cette histoire du mariage pour tous, etc. Mais j'avais envie, moi en tant qu'homosexuelle, j'avais été confrontée au fait que le choix n'était pas une évidence pour tout le monde et que l'hétérosexualité était pas re-questionner pour les enfants et les ados, et que c'était est-ce que t'as un petit copain. Et moi je me disais pourquoi on me demande jamais si j'ai pas par hasard une petite copine. Et du coup voilà, c'était vraiment l'envie de faire un spectacle pour les enfants à l'école primaire, pour pouvoir juste ouvrir les possibilités. C'est pas un spectacle vraiment sur la sexualité, c'est plus parce que c'est trop tôt, parce que ça les concerne pas vraiment. C'est plus sur, voilà, dans la vie, tout est possible, et si on veut être heureux, faut être soi-même, quoi. Et donc, c'était plus donner toutes les billes pour qu'après, les enfants, ils fassent ce qu'ils veulent avec.
Ouais.
Mais
c'est vraiment cette volonté de normaliser les possibles, les différents possibles qui s'offrent à nous, quoi, et que ce soit pas tout le temps orienté... En effet, pour le schéma hétérosexuel, papa, maman, le chien, le barbecue et compagnie. Et non, parce que du coup, c'est pas un spectacle militant en soi, enfin pour.
C'est un spectacle engagé de fait,
ouais, voilà.
Mais c'est plus une invitation à la tolérance.
Ouais.
Et c'est un jeune public parce que voilà, dans les collèges, lycées, il y a beaucoup d'interventions d'associations comme SOS Homophobie, etc., qui interviennent en réaction à des violences, etc. Et là, c'était l'envie juste de dire que c'est possible avant que ça soit quelque chose de violent ou de tabou ou de...
D'ouvrir un peu les pensées, en effet, avant l'adolescence, quoi. Pour que, quand ils arrivent justement à ce moment de l'adolescence où la sexualité devient un réel questionnement, et ben, ils aient déjà eu plein de d'opinions et de visions différentes sur l'amour, quoi.
Voilà. Est-ce que je peux en profiter pour vous poser une question? Vous avez la vérité.
Vas-y, Paramea.
C'est quoi l'amour?
Alors, l'amour, ce n'est pas une chose. Hein. Ce n'est pas un oiseau, là, comme dans ta petite chanson, là. Alors, l'amour, c'est quelque chose d'abstrait. Ça ne se possède pas, ça se vit. Et c'est très différent pour chacun d'entre nous. L'amour donne de la force et de la confiance en soi. Avec la personne qu'on aime, on peut tout vivre, être heureux, malheureux, être pleuré, être en colère, rire, être soi-même, quoi.
Ben, comme avec Destrier, mon cheval.
Alors, il existe plusieurs sortes d'amour. Hein. On aime sa famille, ses amis, son animal domestique. Mais l'amour dont je te parle est l'amour d'amoureux. Et dans cet amour-là, il y a un ingrédient en plus, le désir.
Le désir, c'est comme quand on a envie d'embrasser sur la bouche.
Voilà.
D'accord. Bah alors du coup, vous pouvez me dire quand est-ce que je vais le rencontrer, moi, l'amour? Enfin, ce sera qui? Ce sera où? Comment ça va se passer?
Est-ce que je vais le
reconnaître?
Tu te calmes.
Pourquoi Péronie et la princesse sont lesbiennes?
Parce qu'elles sont, elles sont pas forcément lesbiennes déjà, elles sont juste tombées amoureuses. Et on peut des fois tomber amoureuse de quelqu'un qui a pas forcément le sexe opposé, qui a le même sexe que nous. Et c'est ce qu'on essaye de dire dans l'histoire, c'est que Véronie, elle passe quand même toute l'histoire à chercher ce qu'elle elle veut et qui elle est. Et là, dans notre histoire, il se trouve qu'elle est lesbienne, mais il y a plein d'autres personnes qui se cherchent, qui sont hétéros.
Bah, c'est surtout qu'avec cette histoire, on voulait dire, faire entendre que tout est possible, quoi. On tombe amoureux de qui on veut, en fait. Tant qu'on est heureux, c'est ça le principal. Mademoiselle avec l'écharpe rouge.
Mais Lilou et Péronie, elles se sont mariées?
Bah, on sait pas, on le dit pas.
Voilà, c'est ce qu'on dit. Peut-être elles se marient, peut-être pas. Peut-être elles ont des enfants, peut-être pas. Elles feront comme elles veulent, quoi.
C'est bizarre parce qu'en d'habitude, les filles, ça se marie pas avec les autres filles, ça se marie avec des garçons.
Ouais, ce qui tracasse surtout les enfants, au final, c'est pas qu'elle tombe amoureuse d'une femme, c'est qu'elle soit chevalière. Quand même, c'est une chevalière, elle a une épée. Ça, c'est bizarre, quoi. Du coup, c'était assez drôle, ouais. On a été assez surprise. Et le fait qu'elle tombe amoureuse d'une femme, oh non, ça va, c'est normal, on s'en fout. Mais quand même, elle est chevalière.
Quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours d'enfants dans ce sens-là. Après, bon, ça dépend aussi des âges, quoi. Parce que. Passer un certain. Enfin, il y a une petite tranche d'âge, là, où ils sont quand même très pudiques par rapport à tout ce qui est question d'amour, de sexualité. Enfin. Et du coup, ils veulent pas qu'on les emmerde avec ça. Donc, c'est une chouette histoire, il se passe plein de trucs. Bon, oui, la fin, on ne peut plus que partir avec la princesse, mais.
C'est quoi la tranche d'âge, c'est
quoi? du 7-9 ans, là. Tu vois, il y a un petit... Avant 7 ans, en effet, c'est plus ça. Bah, dis donc, elle est chevalière. C'est pas normal d'être chevalière. Et puis, sur l'amour, ils se questionnent pas parce que eux-mêmes, ils ont... la meilleure copine, c'est une amoureuse. Ou c'est la meilleure copine, on sait pas trop. Enfin, voilà, ils sont encore dans la période où ils aiment, quoi. Et peu importe. À partir de 7 ans, ils commencent à comprendre le schéma, quoi. Et ils s'accrochent beaucoup à ce schéma. Quand je dis schéma, je parle de schéma normé, papa-maman, quoi. Donc là, ça commence à devenir un peu plus pudique, la conversation autour de ça. Mais bon, voilà, ce qui est chouette, c'est que, comme disait Sophie, hein, c'est les trois dernières minutes du spectacle, ce dénouement. Mais sinon, pendant une heure, ils ont de quoi se régaler dans les trois épreuves.
Et c'est en fait le dénouement de Peroni. C'est-à-dire, oui, c'est ça... version à elle, sa manière à elle de trouver là l'épanouissement dans l'amour. Mais on le rappelle, c'est-à-dire que comme justement par rapport à tout ce qui s'est passé politiquement ces derniers temps, tous les mots du spectacle sont pesés et choisis. Tous. Il n'y a aucun moment, tout est écrit, il n'y a aucun moment où on a réfléchi au sens de chaque mot et à l'impact que ça pouvait avoir. Et du coup, on le rappelle bien, à plein de moments, donc Peroni cherche l'amour et demande à des gens, donc à des personnes âgées, il y a un oracle, il y a des sages, elle, chaque fois, elle demande à des gens. Et elle va même voir un psy, un pédopsychiatre. Et voilà, et à chaque fois, on rappelle bien que c'est pour chaque personne différent et que c'est juste une manière d'être... que le principal est d'être à l'écoute de soi-même et de s'accepter tel qu'on est.
Léontine Oui, Philémon, qu'est-ce qui se passe? Léontine, je ne comprends pas. Léontine ne veut pas recevoir l'amour, hein, je ne comprends pas. Mais enfin, Philémon, tu ne vois pas qu'elle vient de le rencontrer, l'amour? Quoi? Peroni et Lily Rose sont tombées amoureuses. Bon, moi, trop mystique.
Et 1, 2, 3, 4.
L'amour n'est pas rond, l'amour n'est pas lourd. Ce n'est pas un oiseau, maintenant je le sais. J'ai des ailes, je perds la tête. Oh, 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 quel bonheur, je me sens tout électrique. J'ai des papillons dans le ventre, oh yeah. Et ça fait même pas mal. Et tous les bindoum, il a fait chaud. Aujourd'hui, il fait très très chaud. De jolis bébés. Se ressemblent comme deux gouttes d'eau. L'une devant biologiste, l'autre devant poète. L'amour n'est pas rond, l'amour n'est pas lourd. Ce n'est pas un oiseau, maintenant je le sais. J'ai des ailes, je perds la tête. Oh oh oh, oh quel bonheur, je me sens tout électrique. J'ai des papillons dans le ventre. Oui, yeah, 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 je suis tombée amoureuse. Et ça fait même pas mal. Donc voilà, elles se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Oui, oui. Ou pas.
Yo.
Bon, ben, c'était un chouette montage. Merci pour ce montage.
Ah oui, c'était bien.
Ah ouais. Et moi, j'ai pu aussi aller à la représentation là au moment où le son a été pris et j'avais juste envie de rajouter que c'était, quoi que là, on a pu entendre à un moment l'oracle qui fait, qui sait pas trop et qui parle de l'amour et tout et que ouais, quoi qu'il y a un des trucs que moi j'ai vraiment bien aimé dans ce spectacle, c'est que c'était bien, il y avait plein de moments vraiment bien drôles et aussi ce que j'avais envie
rajouter sur le truc une des personnes là du spectacle qui répond fait que ah ben pour une question qui était mais pourquoi vous avez choisi que Peroni elle soit lesbienne un peu et que elle dit mais elle est pas lesbienne elle est, on sait pas ça quoi voilà c'est pas le truc c'est qu'elle est là amoureuse de Lily Rose quoi et mais que c'est pas il y a pas un truc ouais de défense d'une identité ou un truc comme ça que quand même moi j'avais bien aimé dans la pièce parce que à un moment Peroni dans toutes les aventures qui lui arrivent elle rencontre une personne qui s'appelle Ginette et où elle est super en kiff et en kiff sensuel.
En fait, t'es en train de nous spoiler le spectacle.
Mais il a déjà été un peu spoilé.
Non, je rigole.
Ok. Et que ça, c'était cool aussi, qu'il y ait cette dimension-là. Et quoi, après, moi je sais qu'au niveau du thématique de genre c'est quoi l'amour, le truc être disponible à l'amour et tout, c'est un truc que ça me parle moins, mais pour autant, le jeu de la pièce et les chansons. Les deux comédiennes qui ont super la péchouille et tout, c'est vraiment cool quoi. Voilà.
Clairement.
À conseiller.
Oui. Donc à propos des chants de ce spectacle, ils ont été composés par Coco Guimbo, une musicienne qui a également fait partie du quartet buccal qu'on écoute maintenant avec la chanson Babette.
Que je te vois pas bête, y a un volcan au creux de moi qui fait ding ding dong et qui pète. T'es la seule fille qui me fait ça. Comment dire sans te voir inquiète, tu me plais tout le tralala. Vu que t'es une fille et que j'ai des couettes, tout ça me met dans l'embarras. Connaître. Je ne flashais que pour de beaux gars, pas les plus machos peut-être, mais enfin ils en avaient là. Voilà soudain que je m'empêtre, tourneboulé dans de beaux draps. Oui, toi ma belle, tu as fait naître de drôles d'envie qui ne s'avouent pas. Pourquoi moi, je me mets dans ce drôle d'état pour toi. J'ai jamais eu ces pulsions-là, les nanas c'était pas mon truc avant toi. Tu me troubles à ce point là, j'y crois pas. Je vais quand même pas te faire du plat. Va falloir que je remette mon cœur à l'endroit. J'aimerais me dévoiler, Babette, mais tu m'ignores et me chagrines. Car pas une pensée malhonnête derrière ta tête ne trottine. Je pâlis, tremble et deviens bête. Je bafouille et me ratatine. Quand tu me confies tes conquêtes exclusivement masculines. Pour te voir fondre entre mes doigts, je vais pas tenter le tout pour le tout, vu que j'aime assez mon petit chat. Mais si tu tombais à genoux devant un type nul et bêtin, je serais tout prêt au cas où tu voudrais pleurer dans mes bras. Pourquoi moi, je me mets dans ce drôle d'état pour toi. J'ai jamais eu ces pulsions-là, les nanas c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi, tu me troubles à ce point-là, j'y crois pas. Pourquoi toi, je peux même pas te faire du plat. Va falloir que je remette mon cœur à l'endroit. Chaque fois que je te vois, Babette, y'a un volcan au creux de moi qui fait ding-dang donc et qui pète. T'es la seule fille qui me fait ça. Comment dire sans te voir inquiète, tu me plais tout le tralala. Vu que t'es une fille et que j'ai des couettes, tout ça me met dans l'embarras. Pourquoi moi, je me mets dans ce drôle d'état pour toi. Pourquoi toi, j'ai jamais eu ces pulsions-là, les nanas c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi, tu me trouves à ce point-là, j'y crois pas. Pourquoi toi, je vais quand même pas te faire du plat. Va falloir que je remette mon cœur à l'endroit.
Vous êtes toujours sur Voyelle, sur Canal Sud, donc 92.2, et on vient donc d'écouter Babette, et avant ça, Avant ça, le montage de Peroni. Et là, on va continuer sur les thématiques psy et anti-psy. Donc, ça, c'est cette thématique-là. En fait, on pensait l'aborder au départ dans une émission qui aurait été davantage préparée. Donc là, c'est un petit peu des petites pistes de réflexion quoi sur ces thématiques, mais pas aussi approfondies qu'on aurait souhaité au départ. Et ça fait un peu partie de la trilogie qu'on avait envisagée et débutée en décembre sur les thématiques de la santé. Et voilà, avec il y avait sur la santé communautaire et l'autonomie dans la santé, tout qui viendra. Enfin, voilà, c'était un peu là-dedans. Et du coup, sur le truc de là, on choisit de présenter comme psy anti, et anti-psy, du coup, les deux trucs, la psy et anti-psy. C'est dans l'idée qu'en fait, tu peux être anti-psy, c'était un peu dans un truc de critique des pouvoirs de normalisation psy. Et en même temps, voir une psy, prendre des médocs, t'autodiagnostiquer dans des termes psy ou quoi. Que les deux, en fait, parfois, ils peuvent aller ensemble et que c'est pas évident quand justement t'as une démarche anti-psy et qu'en même temps, tu peux te considérer d'une manière ou d'une autre comme psychiatrisée ou fou, folle ou quoi. Voilà. Et ce qui nous intéressait là de réfléchir un peu sur travailler un peu ces thématiques-là de la folie, de la souffrance et des normes sociales qui vont avec tout ça. Et pour le reste de l'émission, on a trois montages un peu autour de ces thématiques pour commencer à y réfléchir et se donner un peu des idées. Et avant ça, moi j'avais envie de partager quelques éléments de réflexion et pour aussi un peu introduire les montages. Et du coup, un peu comme premier truc, moi j'avais l'idée que du coup les normes psy comme le truc d'être fou, folle, normal, malade, d'être diagnostiqué de telle ou telle manière, c'est à la fois des normes que d'autres personnes peuvent poser sur toi. Alors ces autres personnes, ça peut être l'hôpital psychiatrique, ça peut être des personnes proches, ça peut être les discours ambiants et tout. Et c'est aussi des normes que toi, tu peux avoir besoin de poser par rapport à toi-même, parce que ça peut être aidant, parce que t'en as besoin pour poser certaines impressions que t'as, parce que genre ces impressions, justement, ça n'a pas toujours été là, ce vécu, il n'a pas toujours été comme ça. Voilà, et que du coup, il y a un peu ces deux trucs, à la fois ça vient des autres, à la fois ça peut venir de toi-même, et que c'est pas du tout la même manière de se situer dans ces deux situations-là. Et mais qu'en même temps, ça circule entre ce qu'on te dit de toi et ce que toi, tu dis de toi, et tac, tac, tac. Voilà, et aussi dans le besoin genre de pouvoir appeler un peu à ce vocabulaire, à ces normes aussi du coup psy, ce besoin, il peut aussi un peu répondre pour des personnes à avoir envie en fait d'être dans les normes, dans l'opposition un peu mode normal pathologique, et genre avoir envie d'être dans les normes, ça peut avoir, pour des personnes, ça peut vouloir dire avoir envie de pouvoir sociabiliser, de pouvoir travailler, pouvoir être dans des relations affectives, de pouvoir dormir, manger, s'adapter à des situations, de pouvoir être et sans que tout ça s'accompagne de trop de souffrance ni d'appréhension. Voilà, moi c'était un des trucs que j'avais en tête. Et après, que moi, ce que je peux entendre un peu dans le truc de l'antipsy, c'est le fait de critiquer les pouvoirs de normalisation des personnes qui font que, genre, une personne peut être envoyée à l'HP, de pousser à prendre des médocs, du coup d'être enfermée, d'être exclue, d'être montrée du doigt, de faire taire une personne sous prétexte qu'elle est folle, de ne pas considérer sa parole, de diagnostiquer, de stigmatiser. Donc ça, c'est tout le pouvoir psy en fait qui peut exister. Et l'antipsy, c'est aussi interroger la folie, on lui donne une dimension individuelle, on dit que telle personne est folle et en fait on voit pas la dimension. Et en fait, c'est la société qui produit ça, et la société, d'un plein d'aspects, elle est malade, et du coup, elle produit des pathologies, enfin que ça circule vraiment entre les deux. Et du coup, ça, c'est aussi un versant critique de l'antipsy. Et voilà. Du coup, il y aurait un peu ces deux versants, ces deux trucs-là, au moins, mais après, il y a d'autres trucs à rajouter. Voilà, quoi, c'est juste des pistes un peu de réflexion. Et, mais moi aussi, ouais, ce qui pouvait me paraître important dans le truc de. Voilà, de pouvoir avoir un peu des réflexions, là, des critiques anti-psy, et en même temps de garder en tête que. Les souffrances psy ou morales ou quoi, que bah, c'est des choses qui existent et que les outils institutionnels psy, bah, ça peut aider, genre médoc, personne psy et tout, professionnel, que ça, voilà, que ça dépend des personnes et leur situation face à ça. Et aussi l'idée que le fait d'être hors norme, c'est pas forcément super sexy ou trop classe ou quoi, et qu'on peut avoir envie en fait d'être dans la norme et de pas être dans le sens de pas être malade, parce que des trucs de maladie peuvent faire souffrir et tout. Et moi, un dernier truc, et là c'est plus en mode aussi, ça introduit le montage qui va venir là, c'est le fait que c'est pas évident que ça peut vraiment poser, ouais, des bonnes difficultés, bah, pour soi-même et dans les relations, quand en fait le partage d'une réalité commune, en fait, il est plus tellement, il a plus tellement lieu, ou il est vraiment mis en péril parce que du coup, en fonction de l'état dans lequel on est ou de l'état dans lequel une personne proche est, ben, on n'arrive pas à communiquer, on partage pas, ouais, on a l'impression de partager vraiment très difficilement la même une réalité commune, et que ça, c'est un truc. Bon, bref, je sais plus trop, mais bon, bref, c'est un truc assez galère. Et dans le texte là qu'on va entendre, et ben moi, c'était un truc qui me parlait pas mal. C'était une problématique qui est assez présente et qui me semblait intéressante, quoi, d'entendre. Et donc ce montage, en fait, c'est un texte de Violette Leduc. C'est une romancière lesbienne qui a écrit dans les années 50-60. Et là, c'est extrait d'un texte autobiographique. Et je crois que ce texte, c'est... truc à l'amour.
On a dit tout à l'heure.
Ouais.
Ah si, la chasse à l'amour.
La chasse à l'amour, yes. Mais je suis pas 100% sûre. Et en tout cas, voilà, là, elle parle elle écrit sur un moment de sa vie et où justement... le truc de rapport aux proches, rapport aux médecins qui viennent normaliser des vécus et qui viennent, mais aussi accompagner, et voilà, quel problème ça pose. Et enfin bref, et c'est un texte super beau, moi, je trouve, quoi, qui m'avait bien touchée, donc voilà.
Merci.
La vie, les semaines, les mois, les années ne sont pas des numéros de voiture, des paquets de gitanes ou de gauloises vides. Des étrons fascinants, des morceaux de charbon à compter, à recompter. Les 12 mois de l'année ne sont pas seulement un drame ou une tragédie pour deux morceaux de sucre, debout, dans une boîte, au lieu d'être couché. Il y a d'autres bruits que ceux des frôlements, des craquements, des grignotements au plafond. Simone de Beauvoir le résumait avec plus de nuances quand elle me disait, de sa voix la plus douce, « Vous devez consulter un médecin. » Vous lui exposerez vos problèmes. J'étais fière. Elle se souciait de moi. Vous devriez vous soigner, insistait-elle. Quand j'arrivais chez elle, quand je la quittais. La marchande à côté de l'église Saint-Paul l'avait dit aussi. Me soigner ? Je ne suis pas malade. Je le soutenais. Elle hochait la tête. Croyez-moi, il faut voir un médecin. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ça va. Je pleure, ensuite je mange. Je mange, ensuite je pleure. Je refermais la porte de son immeuble. Je me l'avouais. J'aimais trop Jacques. Elle en supportait les conséquences pendant mes 3 heures de jérémiade. Je me plaignais beaucoup moins chez Jacques. Son luxe et ses richesses me coupaient la parole. Je ne suis pas malade. Les invisibles... Les maléfiques m'en veulent. J'en souffre. J'ai perdu la confiance en écrivant.
Les paysages, les objets, les choses, les passants doutent de moi, comme je doute d'eux. Je ne les accueille pas les bras ouverts. Je trafique. La littérature détraque. Il faut dire vrai et dire autre chose. Être équilibré, quand il faut cacher à tous ce qu'on fait. C'est un métier honteux, il ne rapporte rien. Avoir de l'équilibre, quand il faut s'asseoir sur le mur écroulé, ce mur qu'on finissait de bâtir, si c'était un repère de bandits où l'un soutient l'autre. J'ai parlé trop vite. Simone de Beauvoir me soutient à la force du poignet. Le docteur a consulté Jacques. J'irai mieux s'il me demande de venir souvent près de lui. Cercle vicieux, ma tristesse est mon ennemi. Je m'attriste. Je n'aurai rien à dire au médecin. Son monde n'est pas le mien. Affable il sera, et ce sera son mépris. Je lui parlerai, il se taira. Ce sera comme si je leur écrivais. Je n'ai pas besoin d'un médecin. J'ai besoin d'un revolver. J'abattrai mes ennemis. On ne tire pas sur des frôlements et des craquements. Oh maman, j'ai envie de pleurer. Je le sais mieux que vous, docteur. Je devrais les subir, les entendre et les écouter jusqu'à la fin de ma vie. Les espions, leur minceur, celle d'un cheveu ou d'une aiguille. Ils mettront en bière une martyre couverte d'étrons et de plaques minéralogiques. Elle aura des papillotes. Ce seront les paquets de gauloisines. Si je partais, si je me sauvais, si je rôdais dans les villages de montagne, ils cesseraient, ils craindraient les avalanches. Docteur, je veux y aller. Je veux y aller toute seule. Je n'irai pas si vous m'indiquez le chemin. Elles m'appellent. Elles ont retenu une place sur le bois. Docteur, je ne vois plus rien. C'est votre faute, vous êtes un écran. Non, je n'irai pas vous consulter. Je mange, je dors mal et ne fous rien. Elles ouvrent leurs mains, je les vois. Elles ferment leurs mains sans rien dedans. Elles me font signe, les petites lignes. Leur index remue. Pourquoi je ne vais pas les rejoindre? Une place est libre sur le banc. Comment arriver jusqu'à elles? La poignée de cuivre d'un immeuble me le dira. Quelle poignée de cuivre? Ce n'est pas ce qui manque. Vite, manteau, vite, foulard. Je veux du cuivre. Faut pas qu'on me voie. Ma tête, laisse-moi tranquille. Non, pas de migraine, docteur. Comment le docteur entrerait-il dans ma tête? Pas d'échelle pour escalader. C'est mon vin, ma tête. C'est ma fortune, ma tête. Mon hélice, ma toupie. Une malaxeuse, une turbine. Il ne l'arrêtera pas. Je peux comprendre, pas lui. Les radios, les clichés pour le carnage dans ma tête? Impossible. Les étrons sont dans les engrenages. Les plaques minéralogiques sont dans le broyeur. Les gitanes de Jacques sont dans le lame noir. Quelle chaudière. N'entrez pas, docteur, vous vous brûlerez. Vous vous blesserez avec mes rouages et mes dents de scie. C'est mon mal, ce n'est pas le vôtre. Seriez-vous un petit curieux? Je vous demande des nouvelles de votre santé? Ce serait incongru. Des espions, des sournois, des cruels, des ennemis. J'en ai des régiments. Cliente, je vous crois sur parole. Nous les combattrons, nous les dépisterons, nous les réduirons à rien. Je mitraillerai votre grenier. Je suis un bagarreur. Je me bagarre pour mes manettes. Trop beau pour être vrai. L'organisation le sait, docteur. Je ne suis pas malade. C'est elle qui veut me voir tomber. Elle veut ma peau. Elle mine ma raison. Je n'irai pas chez vous. Vous ne me croirez pas. Sachez ceci. Je suis surveillée autant qu'un condamné à mort. Vous seriez sceptique. Je dois me préserver de cette bande de perfides. Je ne compte que sur moi.
Voilà, donc c'était une lecture d'un texte de Violette Leduc et vous êtes toujours sur Voyelles. Et ben j'espère que ça a été une bonne écoute pour vous. Et là, moi, je me disais que c'était pas, ouais, que c'est vraiment pas évident le truc de. À la fois, moi, je ressens un truc de compréhension forte de genre, c'est quoi le. La. là, un truc de ressentir en tout cas une solitude forte là face à des discours extérieurs sur ce que là elle est en train de vivre, genre discours possible d'un médecin ou de proche et tout, et que du coup qu'il y a une rupture, énorme en fait entre ce qu'elle vit et ce que d'autres peuvent lui renvoyer. Et je trouve que c'est vachement quoi, bref. C'est juste dans un truc de ah oui, c'est vrai, c'est vraiment touchant et c'est vraiment pas du tout évident l'écriture là de cette rupture quoi entre elle et des personnes extérieures quoi. Bref, du coup tout ça pour introduire une musique, c'est un morceau de Diams qui va arriver, il s'appelle Si c'était le dernier, son dernier titre, et où c'est le début en fait d'un morceau parce qu'il dure 10 minutes ce morceau, du coup là on passe que les 3 premières minutes, et où elle parle entre autres d'un séjour à l'HP.
De la trentaine, j'appréhende la cinquantaine, mais seul Dieu sait si je passerai la vingtaine. Mon avenir et mes rêves sont donc entre parenthèses. À l'heure actuelle, j'ai mis mes cicatrices en quarantaine. J'écris ce titre comme une fin de carrière. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière. S'il était mon dernier morceau, j'aimerais qu'on se souvienne que derrière mes palabres se cache, c'est une reine. Voici mon mea culpa, mais elle ne coule pas, non. Et si le rimel coule, sache que mon cœur ne doute pas. Je suis entière et passionnée, rêve d'amour passionnel. Et toi mon cœur, SOS, SOS, que tu m'aimes. J'ai vu le monde sous toutes ses coutures, avide de points de suture, à l'usure elles m'ont eu. Ouais mes putains de blessures, je vis en marche de ce monde depuis que j'ai écouter l'enfer, qu'il fait sombre tout en bas quand t'es perdu sans l'enfer. Et j'ai posé un genou à terre en fin d'année 2007, on m'a dit mêle. Soit compte interne, soit en dentaire, qu'il aurait cru. Moi la guerrière, j'ai pris une balle en pleine tête, une balle dans le moral. Il paraît que j'ai pété un câble, paraît que j'ai fait 10 pas vers Dieu depuis que j'ai sombré. Paraîtrait même que je vais mieux depuis qu'on m'a laissé tomber. Car c'est comme ça, dans la vie, quand tout va bien, t'as plein d'amis. Puis quand t'éteins, t'entends une voix qui dit t'es seul, Mélanie. Relève-toi pour ta mère, au moins fais-le pour elle. Relève-toi pour tes frères et sœurs qui aiment tes poèmes. Et font le soir dans les salles, quand tu chantes petite banlieusarde, t'entends une voix qui te dit pas toi. Au moins pour lui, c'est peut-être l'homme de ta vie, peut-être le père de ta fille. Et puis la voix se verra et tu t'écroules. Y'a plus de MTV Award à l'hôpital pour t'aider quand tu coules. Car je la fous, ouais c'est vrai, j'ai fait un tour chez les dingues. Là où le bonheur se trouve, dans des cachetons ou des seringues. Là où t'es rien, camarade, rien qu'une putain d'ordonnance. Au Vésiné, à Sainte-Anne, t'as peut-être croisé mon ambulance. J'ai vu des psys se prendre pour Dieu, prétendant lire dans mon cœur. Là-bas, là où les yeux se révulsent après 21h. Seul, dans ta chambre, quand faut se battre, tu t'échoues. Ces putains de médocs sont venus me couper les jambes. Au fil du temps, sont venus me crier les neurones. Ces charlatans de psy ont bien vu prier mes euros. Tous des menteurs, tous des trafiquants d'espoir. C'est juste que j'avais un trop grand cœur pour un avenir trop illusoire. Prenez ce titre comme un parfait dans la gueule ou dans la mare. Vous n'arrêterez pas mes coups de cœur avec du long sapac. Antipsychotique, antidépresseur, anti-anti. Normal que vous soyez folle, vous êtes trop gentil, gentil. En vrai, je suis comme tout le monde, mes sagesses, mes colères m'ont dit. Vous êtes malade à vie, vous êtes bipolaire. Moi j'ai cru comme une conne, alors j'ai gobé. Plus de quoi calmer mon cœur au fond d'un gobelet. Le visage marqué par mes démons, ouais j'ai pété les plombs. C'est fou comme y'a du monde qui t'aime quand tu vas taper le fond. Ils sont heureux quand tu t'écroules, car tout d'un coup ils se sentent forts. Mais quand je faisais jumper les poules, ils étaient morts, ouais c'était mort de jalousie. Donc heureux que Diams rêve. Et quand bien même ce fut vrai, Mélanie se relève. Aujourd'hui Mélanie plane, j'appelle ça ma renaissance. Comme enfant très plein, j'ai le cœur plein de reconnaissance. Au final c'est toujours les mêmes, toujours les vrais qui me soutiennent. Ceux-là même qui m'aiment, que je pleure de rire ou de peine. J'écris ce titre comme si c'était le dernier de ma vie. Besoin de cracher ce que j'ai à dire, besoin de te raconter ma vie.
Voilà,
c'était Diams.
Et on enchaîne sur un autre montage.
Ouais.
À moins qu'on ait des choses à se dire avant. Pas forcément. Bon, ouais, voilà. Alors du coup, le prochain montage est une lecture d'un texte qui s'appelle « Lettre à moi plus jeune », qui a été traduit. C'est un texte qui est initialement en anglais, qui a été du coup traduit et qui se trouve dans un fanzine dont on... tairas le nom par méconnaissance, à moins que.
Mais c'est possible que dans le montage, ouais, la personne l'introduise plus.
Tout à fait.
Pour nous, c'est un peu une découverte. Quoi, ah. Nous, on n'a pas écouté le montage.
Voilà. Donc c'est une surprise pour tout le monde là maintenant.
Rétrolettre à moi-même, c'est un texte qui a été écrit par Erin, qui donne cette introduction-là. J'ai d'abord écrit ce texte pour mindyourmind.ca, mindyourmind.ca, un site qui parle de santé mentale des jeunes. Ensuite, le texte a circulé jusqu'à une communauté à Sarima, Ontario, États-Unis, qui avait vécu une augmentation des suicides de jeunes. J'ai envie de continuer à partager ce texte avec l'espoir d'aider les autres à travers ce que j'ai mis tant de temps à surmonter. Pour être parfaitement honnête, je doute que j'aurais écouté ces conseils quand j'étais plus jeune. Mais si j'avais pu l'avoir à portée de main, pour le relire et le relire de temps à autre, peut-être que ça ne m'aurait pas pris aussi longtemps pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et voici la lettre. Cher rétro moi, je sais que la vie, c'est juste l'enfer en ce moment. Je sais que ça te prend toute ton énergie juste pour te sortir du lit. Et que penser à aller mieux, c'est comme penser à déménager pour aller sur Mars. Crois-le ou pas, quoi qu'il en soit, l'espoir est bien plus proche que ce que tu ne penses. Être ado, ça pue. Mais ce qu'elles ne nous disent pas, c'est que tu y es presque. Ils te disent qu'après le lycée, tu peux décider de quelle carrière tu veux. Mais plus important que ça, tu peux décider de quel genre de vie tu veux. Tu en es presque au moment où tu es assez âgé pour être capable de vivre par toi-même, et c'est la clé. Sans le contrôle de tes parents, tu peux prendre soin de toi et faire ce que tu veux. Dormir tout le jour, se coucher tard, mettre de la musique fort, choisir ce que t'achètes à manger, ta déco d'appartement, ta raison de te réveiller chaque jour, que ce soit aller à l'école ou écrire un blog de musique. Les opportunités et les choix sont sans fin. Une fois adulte, tu es ton propre responsable, de par la loi. Tu es libre. Jusque-là, tiens bon, et rappelle-toi que tu as plus de contrôle sur ta propre vie maintenant que ce que tu penses. Rappelle-toi que ton lycée n'a que quelques 1000 étudiants et que la planète en a à peu près 7 milliards. Même si tu as l'impression d'être le plus grand monstre de ton école, ça ne veut pas dire que tu es un monstre dans le grand ordre du monde. Il y a des tonnes de gens comme toi, et une fois que tu auras passé ton bac, tu seras libre de les trouver. Oui, tes parents te font sentir que tu devrais avoir honte d'être déprimé. Mais il n'y a rien de mal à ça, même si tu te sens si mal chaque jour. Juste ne laisse pas tomber les choses qui t'apportent de la joie. Continue à aller à tes cours de danse, à jouer du basket. Mais si ces choses-là ne t'apportent plus autant de joie que par le passé, elles t'apporteront quand même un peu de joie. Si tu les abandonnes toutes, alors tout ce que tu vas avoir, c'est de la souffrance. Maintenant, parlons un peu d'autodestruction. Oui, tu as utilisé ça comme un moyen pour réussir à survivre chaque jour. Et ça a marché un peu, sinon tu aurais arrêté. Ça te garde, par contre, en état de déprime. Quand tu utilises l'automutilation, tu deviens ta propre abuseuse. Te faire du mal à toi-même te rend seulement faible en esprit, de sorte que lorsqu'une prochaine personne voudra te faire du mal, tu n'auras plus la force de résister. En plus de l'automutilation, je sais que tu vas te battre avec la nourriture. Tout le monde parle aux ados des dangers des troubles alimentaires, mais une chose qu'on ne dit pas avec ces troubles alimentaires, c'est que tu te sens fatigué tout le jour, tous les jours. Tu te sens malade, sans substance et nauséeuse. Tu penses que ça fera comprendre aux gens que tu souffres, mais la plupart d'elles ne vont même pas remarquer ta douleur. Et elles vont juste être en colère contre toi. La seule manière de dire au monde que tu souffres, c'est d'utiliser tes mots. Dis-leur que tu souffres et que tu as besoin d'aide. Dis ça à tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un t'écoute. quelqu'une va t'écouter. En plus, si ton corps n'a plus les calories dont il a besoin pour réagir à l'aide qu'on t'apportera, ça va être inutile. Un cerveau et un cœur ont besoin d'énergie pour guérir. Alors envoie chier tout le monde et occupe-toi de toi. Personne ne s'est occupé de toi, alors tu dois t'occuper de toi-même. Si tu as passé un mauvais jour à l'école et veux te faire du mal, quitte la classe et va faire quelque chose de chouette pour toi. Lis ton livre préféré, va t'acheter une cochonnerie. Ou bien va t'éteindre sous le soleil. Fais une liste des choses que tu peux faire pour t'aider à te sentir mieux et emporte-la avec toi. La prochaine fois que tu as envie de te faire du mal, jette plutôt un œil sur cette liste. Tu te sentiras mille fois mieux que si tu te faisais du mal. Si les gens ne comprennent pas pourquoi il faut que tu partes pour te faire du bien, on les emmerde. Tu es celle qui doit vivre ta vie, pas elle, pas eux. Quand tu as envie de mourir, pense à ton livre ou film ou ta chanson favorite. Et si tu n'avais pas vécu assez longtemps pour les découvrir, pense à tous les livres, films et musiques qui vont sortir dans le futur. Si tu ne continues pas à vivre, tu ne vivras jamais tes rêves. Tout n'est pas encore perdu. Continue à respirer, continue à tenir bon. Un jour, tout ça va faire sens, je te le promets. Tu vas en permanence te surprendre et t'impressionner dans le futur. Je promets, tout ça vaudra le coup. De l'amour, de la part de ton toi plus vieille, plus forte, plus heureuse. Bisous. On peut contacter l'auteur Erin Lacy à scissorkicks.etsy.com scissorkicks.etsy.com ou bien Daisies and Bruises sous Twitter ou sous Gmail ou tout simplement le site web du même nom. Du coup, ça s'écrit daisiesnbruises.com par exemple.
On est de nouveau sur Voyelle sur Canal Sud 92.2. Donc voilà pour le montage qui était assez émotionnant, voilà, assez touchant. Et on va continuer.
On continue en musique.
Tout à fait.
Ouais. Du coup, c'est avec un titre de la chanteuse Camille qui s'appelle Tout dit.
Allez.
Tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, tout dit, tout dit, et tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai, tout dit, dit, tout dit, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai, tout dit, dit, tout dit, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, tout dit, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh ma sœur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, dit, j'ai rompu le charme, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, tout dit. tout dit, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, ça, tout dit, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh, ma sœur, prends garde, tout dit, tout dit, tout dit, ne, tout dit, dit, tout dit, pas, tout dit, tout, tout dit, tout dit, où tu mourras d'ennui. Tout
dit. Vous êtes toujours sur Voyelle.
Tout à fait.
92.2. Du coup, c'était Camille. Oui, on se disait là sur le les retours de montage. Du coup, là, les deux derniers montages étaient quand même bien denses, pas forcément évident à recevoir. C'est des choses dures qu'on entend quand même, quoi. Moi, j'ai l'impression. Et du coup, bah là, on avait plutôt le truc d'avoir préparé ces montages là, de les accompagner un peu de présentation, mais pas forcément de temps de discussion. Mais alors, on espère que côté réception. Ça le fait
ça
pour
se passe
vous.
Bien pour vous.
Voilà.
N'hésitez pas à nous appeler si vous avez un petit peu de difficulté. Jamais.
Tout à fait. Et puis sinon là on va passer au dernier montage. Alors là c'est un petit peu sur un autre truc là qui est réfléchi. C'est plus par rapport au qu'est-ce que en fait qui peut causer des souffrances, des difficultés pour des personnes qui militent. Là, en fait, c'était dans le cadre d'une. On rediffuse en fait un morceau de discussion qui a eu lieu à Radio Rageuse dans une soirée de 4 heures. Du coup, aux rencontres Radio Rageuse, c'était en fait plein de personnes d'émissions féministes qui se sont retrouvées et qui ont produit entre autres 4 heures d'émissions autour de la santé et qui ont parlé donc des souffrances qui pouvaient être liées au fait d'être militante, en particulier militant féministe anarchiste et voilà bah il y a une petite c'est un montage un peu en deux temps, un premier temps un peu où, avec les sons de Radio Rageuse et l'introduction de la discussion et après un temps pris sur le vif de la discussion qui parle vraiment des difficultés entre autres à se situer entre plusieurs milieux et plusieurs normes.
Voilà.
Des émissions radio de féministes,
Gouine, trans,
femmes.
Sur www.radiorageuse.net.
Et oui, donc wesh, comme je disais tout à l'heure, on est sur Radio Rageuse et on fait ce qu'on veut. Et cet après-midi, on a décidé de faire un atelier pour parler de comment on va dans les milieux militants, de comment on se sent, de comment se porte notre santé mentale. Et on a donc fait un groupe de discussion avec un tour de parole.
On avait l'impression que c'était beaucoup le fait qu'on ait pas mal d'injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on a des injonctions qui viennent de la société normée, on va dire, dans la vie de tous les jours, on a plein de trucs qui, enfin, plein de choses qu'on nous dit de faire par rapport au travail, à nos modes de vie, par rapport à la famille, par rapport à des modes de consommation. Et à côté de ça, on essaye de recréer d'autres espaces pour se protéger un peu de toutes ces injonctions qu'on nous balance dans la gueule toute la journée, et que dans ces espaces, on essaye d'être critique envers tous ces modes de fonctionnement qui sont majoritaires dans la société. Mais en même temps, en fait, par moment, on crée aussi de nouvelles normes et avec des nouveaux codes, et ce qui fait que c'est aussi parfois des injonctions qui sont difficiles, parce que ça devient parfois des dogmes ou des trucs qui nous mettent pas à l'aise, où on n'arrive pas à trouver une place forcément, où on est un peu pris en étau entre deux fonctionnements qui sont complètement contradictoires, et nous on est un peu au milieu de tout ça et on se sent bizarre et pas super bien toujours. Voilà, donc on s'est dit qu'il fallait essayer de se débrouiller un peu avec tout ce qu'on nous balançait dans la gueule des deux côtés. Et on voulait donner un petit peu des exemples d'injonctions ou de phrases qui peuvent nous faire un peu mal au quotidien comme ça. Alors, il y avait d'abord dans la catégorie enfants. Alors, c'est pour quand ?
C'est complètement égoïste de mettre au monde des enfants dans ce monde de merde.
Ah, oh, tu verras quand l'horloge biologique se déclenche.
Ah, tu verras, quand t'auras accouché, t'auras plus de vie.
Dans la catégorie travail. Et ta carrière, t'y penses pas ?
Oh mais, t'es pas sortie de cette aliénation.
Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Non, mais je veux dire comme travail.
Ah ouais, tu travailles toi.
Dans la catégorie amour. Alors, quand c'est que vous vous installez ?
7 ans avec le même mec.
Ah, si je suis jalouse, c'est parce que je t'aime.
Ah, vous êtes un couple exclusif, c'est horrible.
Voilà, bah c'était juste des petits exemples de choses où on se sent un peu tiraillé ou mal, quoi.
Et ben c'est à nous.
Retour au studio.
Voilà, à Toulouse.
Ouais. Moi, il y avait un petit truc juste que j'avais envie de placer par rapport à ce montage, parce que je sais qu'à la suite de cette discussion, de ce montage, enfin, bon... Il me reste en tête qu'il y avait eu une discussion, moi j'étais pas présente en Radio Rageuse, mais sur le truc de mettre en fait égaliser les injonctions normatives dominantes et celles qui seraient plus du milieu anarchiste féministe, quoi. Et qu'alors qu'en fait c'est pas les mêmes, c'est pas la même production sociale de ces normes et que du coup ça peut être problématique de mettre sur le même plan et tout. Et en même temps je trouvais que c'était cool de, à un moment, comment ça peut être reçu individuellement, de juste en fait pas forcément savoir comment faire de ces injonctions, de ces pressions, des sous-entendus normatifs qui circulent dans nos lieux de vie, quoi, quels que soient les lieux de vie, et voilà. Du coup, mais là-dessus, ça pourrait être l'objet d'une future discussion.
Tout à fait. Et puis, alors, l'heure tourne. Alors, du coup, on va peut-être passer à une musique, à moins qu'on ait encore des choses à se dire. Et nous allons vous faire la surprise de la prochaine musique qui est fameuse.
Non, on a un petit désaccord sur la surprise ou pas, mais...
Oh mince.
Allez, surprise.
Ouais.
À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle, qu'on ne me voit jamais faner sous ma dentelle, faner sous ma dentelle. et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos aubes plus claires, vous pouvez vous faire l'enlaire. J'ai vu l'or et la pluie sur les forêts d'automne, les jardins alanguis, la vague qui se cogne, la vague qui se cogne. Et je sais sur mon cou la main nue qui se pose, et j'ai su à genoux la beauté d'une rose, la beauté d'une rose. Et tant mieux s'il y en a qui les yeux pleins de lumière ont préféré les combats pour aller se faire dans l'air. Au jardin du bon Dieu, ça n'a plus d'importance qu'on s'y couche amoureux ou tomber pour la France, ou tomber pour la France. Il est d'autres combats que la fin des mitrailles. On ne se blesse pas qu'à vos champs de bataille, qu'à vos champs de bataille. Et ne comptez pas sur moi s'il faut soulager mes frères. Et pour mes frères, ça ira. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Si c'est peu, si c'est rien, qu'il décide eux-mêmes. Je n'espère plus rien, mais je m'en vais sereine, mais je m'en vais sereine. Sur un long voilier noir, la mort pour équipage. Demain c'est au revoir, je quitte vos rivages, je quitte vos rivages. Car mourir pour mourir, je ne veux pas attendre. Et partir pour partir, je choisis l'ange tendre.
Magnifique.
C'est super. C'était je sais bien. Pas pour vous, mais nous, c'est la grosse marade.
C'était le top et c'était Barbara avec À mourir pour mourir.
C'était la surprise.
Voilà. Ouh. Bah, ça change plutôt que d'annoncer avant, quoi.
Ah, oh.
On sait pas. Hein. Et voilà, bah, c'est la fin de l'émission de Voyelles pour ce soir.
On se revoit, on se réécoute dans un mois. Et entre-temps, il y aura une rediffusion de l'émission dans 15 jours.
Exactement.
Tout à fait. Même heure, 21h, 22h30, 92.2, Canal Sud.
Oui, oui, oui.
Allez, au revoir.
Voilà,
au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci de nous avoir
Bisous,
écouté.
À bientôt.
Je vais mettre mes talons hauts, ça me remonte le moral. Ça fait sourire les fesses. Et même que des fois, le sourire y prend l'ascenseur le long de la colonne vertébrale et remonte jusqu'à la bouche. C'est incroyable.